Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Le Conseil des droits de l'homme entame une nouvelle session la semaine prochaine. En raison de la pandémie, l'essentiel des discussions se fera en ligne. Cette session s'ouvre cette année avec l'annonce il y a quelques jours du retour des États-Unis en son sein. Durant 4 semaines, il va tenir une série de dialogues interactifs sur des situations dans certains pays, mais aussi sur des thématiques importantes comme les droits des personnes handicapées ou le racisme. Le Conseil se réunit aussi au cours de l'année ponctuellement pour des sessions extraordinaires qui visent à se pencher sur des situations urgentes, comme ça a été le cas vendredi 12 février pour débattre de la situation au Myanmar. Pour évoquer toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Éric Tistounet, chef de la branche du Conseil des droits de l'homme du Haut Commissariat aux droits de l'homme. C'est notre invité de la semaine. Éric Tistounet, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'évoquer la prochaine session du Conseil, je souhaiterais revenir sur la session extraordinaire de la semaine passée consacrée aux implications pour les droits de l'homme de la crise au Myanmar. Est-ce que c'est important, selon vous, que le Conseil puisse se réunir en urgence pour évoquer des sujets d'actualité brûlants, comme ça avait été le cas, par exemple, à l'occasion du décès de George Floyd aux États-Unis ?
C'est absolument fondamental. Vous savez, le Conseil était précédé d'une commission des droits de l'homme. En 15 ans, elle s'est réunie 5 fois pour des réunions d'urgence. Alors que le Conseil qui a été établi en 2006, lui, s'est réuni 29 fois, c'était la 29e fois. Si on veut parler sérieusement des droits de l'homme, où qu'il se trouve, de quelques droits de l'homme qu'il s'agisse, il est fondamental de pouvoir se réunir absolument quand le Conseil a besoin. Et là, c'était une opportunité de le faire et le Conseil l'a fait en dépit des circonstances difficiles, techniques, je parle.
Alors la nouvelle présidente du Conseil, l'ambassadrice de Fidji, a finalement été désignée après de nombreuses négociations. La présidence a-t-elle un rôle politique ? Peut-elle influer dans la tenue des débats ?
La présidence, en tant que rôle politique, on vit dans un monde où tout est politique quelque part, mais la présidence n'a pas un rôle en tant que tête de décision, mais la présidence a un rôle fondamental à jouer sur ces multiples questions qu'il faut régler et où il est tout simplement impossible de pouvoir avoir systématiquement des discussions du Conseil sur cela. Ça peut aller sur comment organiser une session spéciale à comment organiser la session ordinaire, comment gérer des situations de crise qui peuvent se passer durant une session sur tel ou tel aspect touchant les rapporteurs spéciaux ou touchant tel rapport, etc. Donc, c'est un rôle qui est infiniment important, mais c'est naturellement un rôle qui est circonscrit dans le type de fonction qui est notamment attribué à une présidence.
Le Conseil n'est pas épargné par les tensions internationales. On peut s'en apercevoir dans le cadre de ses travaux, notamment sur la question des priorités. Par exemple, certains États, principalement du Sud, veulent donner plus de place aux droits au développement, tandis que les Occidentaux défendent davantage les droits civils et politiques. Est-ce que ça affecte les avancées en matière des droits de l'homme ou au contraire, on pourrait dire que ça crée une certaine émulation ?
Moi, je pencherais plutôt pour l'émulation, c'est-à-dire... En fait, ce qu'on a toujours voulu dire et toujours souhaité que le Conseil fasse, c'est de traiter de toutes les situations de droits de l'homme, où qu'elles se trouvent, et de tel type de situations qu'il s'agisse, aussi bien des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Donc, que les uns aient telle priorité et les autres en aient d'autres, après tout, c'est quelque chose qui est tout à fait important et stimulant. Ce qui est nécessaire, c'est que l'on puisse traiter de toutes les questions, quelles qu'elles soient. Et l'année dernière, pour donner des exemples très précis, vous avez ce qu'on appelle des débats urgents, donc des débats qui, pendant une session, n'étaient pas prévus, mais que l'on tient parce qu'ils sont nécessaires. Et bien, en session, en juillet, nous avons tenu un débat urgent sur la question de la discrimination raciale et des violences policières suite à l'assassinat de George Floyd. Et 2 mois plus tard, nous avons eu un débat urgent sur la situation des droits de l'homme en Bélarus. Ce sont évidemment 2 types de situations différentes, soutenues par 2 types d'États différents, mais ce qui est essentiel, c'est que quoi qu'il se passe, le Conseil soit en mesure de traiter des questions et, comme je l'ai indiqué, où et quand cela peut se produire. Et là, nous avons, si vous regardez le programme du Conseil, vous avez une vaste cartographie de ce qui se passe dans le monde et ce qui est très bien.
On évoquait le fait que les grands événements politiques ont des répercussions sur les travaux du Conseil. J'imagine que vous vous réjouissez du retour annoncé des États-Unis en son sein. Qu'est-ce que ce retour va apporter concrètement ?
Bien sûr, tout le monde se réjouit parce que ce qu'il s'agisse des États-Unis ou de n'importe quel autre pays, si un des États membres boycotte et se retire du Conseil, il y a naturellement un vide qui se crée. Et s'agissant des États-Unis, qui est quand même une puissance économique majeure, le fait que celle-ci soit absente provoquait des problèmes dans la mesure où c'était comme une négation du multilatéralisme et une négation de l'importance d'un organe tel que le Conseil. Son retour va permettre tout simplement à une voix importante de s'exprimer et de pouvoir intervenir sur tous les sujets de discussion. Et naturellement, le fait que cela ait été annoncé quelques jours à peine après l'investiture de la nouvelle présidence Biden est quelque chose qui a été salué par toutes et tous. Mais encore une fois, tous les États doivent pouvoir intervenir et tous les États ont une importance au Conseil qui est similaire.
Éric Tistounet, venons-en maintenant à la prochaine session du Conseil qui commencera lundi prochain. Des mesures importantes ont une nouvelle fois été prises en raison de la pandémie.
Oui, je crois que l'une des choses qui est fondamentale à noter, c'est que l'année dernière, en 2020, nous avons interrompu nos travaux le 13 mars, comme tous les autres organes des Nations Unies, mais nous les avons repris très très rapidement. Et le Conseil est le seul organe des Nations Unies qui a réussi, en dépit des circonstances, à tenir son programme de travail dans son intégralité en 2020. Il n'y a pas eu la moindre différence, ni dans le nombre des débats, ni dans le nombre des résolutions.
Au début de la session, il y aura comme chaque année ce qu'on appelle le segment de haut niveau. Durant quasiment 3 jours, des chefs d'État, de gouvernement et des ministres vont exprimer le point de vue de leur pays sur la situation des droits de l'homme. Peut-on dire que ce segment permet de se faire une idée globale, de prendre le pouls de la communauté internationale dans le domaine des droits de l'homme ?
Oui, vous avez tout à fait raison. En plus, cette année, de par les circonstances, nous aurons un segment de haut niveau qui sera plus relevé et plus étendu. Normalement, les délégués, donc les ministres, doivent venir à Genève, ce qui est toujours un problème pour certains États pour se déplacer. Donc là, il y aura un plus grand nombre de représentants. Nous en avons, je crois, au jour d'aujourd'hui, entre 120 et 125, et avec un niveau plus élevé, comme vous le mentionnez. Et ça donne effectivement une véritable cartographie de la situation des droits de l'homme telle que perçue par les États dans le monde. Et donc, on peut, à ce moment-là, c'est un moment privilégié pour déterminer les priorités, les objectifs et aussi la vision des États par rapport aux autres, les uns par rapport aux autres. Donc vraiment, c'est un travail d'analyse intéressant à faire et cela donne une image de ce que l'on peut voir dans le monde et entendre.
Outre ce segment de haut niveau, quels seront les grands rendez-vous de cette session ?
Oh, il y en a de nombreux. Vous savez, une session du Conseil, c'est une myriade de choses. Moi, j'ai communément l'habitude de parler de segments de discussion, sans rentrer dans des détails techniques, mais vous avez ce qu'on appelle les dialogues interactifs avec des mandataires, vous avez des débats généraux, vous avez des panels, etc. Et là, pour vous donner une image, nous avons 6 panels avec, par exemple, des questions telles que le 20e anniversaire de la déclaration de Durban contre le racisme et la discrimination raciale. Vous avez un panel sur la peine de mort, vous avez des panels sur les droits des enfants ou sur les personnes handicapées et enfin sur, encore une fois, la discrimination raciale. Donc ça, ce sont des panels de discussion qui permettent d'envisager du point de vue de la substance quelles sont les thématiques qu'on souhaite aborder dans les années à venir. Vous avez une vingtaine d'États qui vont faire l'objet de débats ciblés, ce qu'on appelle des dialogues interactifs avec des rapporteurs spéciaux ou avec la haut-commissaire. Et vous avez 15 débats thématiques qui traitent de sujets très très variés, puisque vous savez que nous avons beaucoup de rapporteurs spéciaux qui ont été nommés sur tous ces thèmes. Pour moi, il n'y a pas un sens de priorité, puisque toutes les questions sont prioritaires, mais nous avons véritablement là un nombre considérable de questions. Et évidemment, l'élément important et ultime de tout cela pour toute session des Nations Unies, c'est bien entendu à la fin l'adoption de résolutions qui devraient être au nombre à peu près de 40.
Vous avez évoqué le dialogue interactif sur des situations spécifiques dans certains pays, mais pas mal de pays émettent régulièrement des critiques sur les mécanismes qui sont créés sans l'accord du pays visé. Est-ce que la situation des droits de l'homme peut s'améliorer dans ces pays si ceux-ci s'opposent au mandat ou par exemple empêchent des visites sur leur territoire ?
C'est une question qui a toujours été posée et qui le sera toujours. Et la situation n'est pas, je dirais, noire ou blanche. Il y a beaucoup de zones grises. On opère dans les zones grises. C'est-à-dire, un État peut très bien dire publiquement qu'il ne coopère pas, alors qu'en réalité, il a des éléments de coopération avec soit la commission d'enquête ou le rapporteur spécial ou la haute commissaire. Et inversement, un État peut dire qu'il coopère manifestement avec le mandataire et en réalité simplement écouter et continuer à faire que ce qu'il entend. Mais ce qui est important, c'est que personne, aucun État ne souhaitera jamais faire l'objet d'une discussion en plénière et que ceci, le simple fait d'en parler, est quelque chose qui a un impact. Et bien entendu, pour contrer cet argumentaire qui est de dire pourquoi parler de tel État plutôt que tel autre, qui est un argumentaire qui après tout se justifie parfaitement, il ne faut jamais oublier qu'on a un mécanisme qui a été mis sur pied il y a quelques années qu'on appelle l'examen périodique universel, où tous les États au monde, tous, quels qu'ils soient, grands ou petits, sont amenés à se justifier ou à se présenter la situation des droits de l'homme dans leur pays à titre régulier et le font dans le cadre de la session plénière ou dans un groupe de travail tel que cela a été le cas il y a 3 semaines, je crois, aux Nations Unies.
Éric Listounet, la société civile demande davantage de place dans les travaux des Nations Unies. C'est notamment un des résultats de l'enquête mondiale lancée par le secrétaire général à l'occasion du 75e anniversaire de l'organisation. Au sein du Conseil aussi, les organisations non gouvernementales demandent plus de visibilité. Est-ce que c'est important d'entendre davantage leur voix ?
C'est essentiel. Je pense d'abord que le reste du système devrait beaucoup apprendre de ce que fait le Conseil. Je crois qu'on ne se rend pas forcément compte, mais lorsque nous étions en présentiel, nous avions la visite d'à peu près 2000 représentants de la société civile pour chaque session. Maintenant, ils interviennent par le biais de messages préenregistrés, mais leur présence est bel et bien essentielle. Et non seulement dans la discussion, puisqu'une discussion, c'est quelque chose qui peut être assez, je veux dire, lassant, puisque vous avez un cortège de discours les uns après les autres, mais aussi dans les négociations. Et ce qui est une chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que lorsque l'on discute et négocie des résolutions, la société civile à Genève est invité et participe au même titre que les États membres ou observateurs. Donc la société civile a son rôle à jouer, c'est quelque chose de crucial et de très très important. Naturellement, il faut suivre un certain nombre de règles et pouvoir faire en sorte que l'on ait la possibilité de les écouter dans des circonstances appropriées et constructives.
Éric Listounet, une dernière question. Vous avez à cœur de communiquer sur les travaux du Conseil et plus globalement sur les droits de l'homme, notamment via des livres. Est-ce que selon vous, le grand public est aujourd'hui suffisamment informé dans ce domaine, notamment sur le travail du Haut Commissariat ?
Des efforts considérables sont déployés, mais c'est une époque qui rend les choses très difficiles parce que lorsqu'on parle de droits de l'homme ou droits humains, on rentre dans des questions naturellement sociétales ou des questions par pays qui sont très, très complexes et qui suscitent des passions. Et la passion en ce moment, elle se traduit souvent par certains discours de haine. Vous allez trouver, au lieu de lire des articles circonstanciés de fond pour ou contre le Conseil ou pour ou contre ce qui est fait, vous allez souvent avoir des constats qui sont des constats basés sur des faits qui ne sont pas avérés, des calculs qui sont faux, des nouvelles qui n'en sont pas, ou l'accent mis sur des questions qui ne sont pas appropriées dans le sens que on va par exemple vous dire, et ça a été le cas il y a quelques années, que le président du Conseil vient de tel pays alors que la réalité est tout autre. Il y a vraiment un travail de base à fournir qui est complexe. Et ça, c'est une question qui s'étend très largement au-delà du Conseil des droits de l'homme. Mais effectivement, le public est, je crois, informé d'une certaine manière, mais la complexité de ce à quoi nous attelons est très difficile à faire passer et à décrypter, à vulgariser. C'est un travail de tous les jours à faire par des gens qui ont l'expérience et qui ont les qualités pour le faire et qu'on doit multiplier. C'est vraiment le devoir qui est le nôtre en tant que représentant des Nations Unies ou des États membres ou de la société civile et de rendre ce travail considérable compris. Chacun peut avoir ses conclusions, c'est normal, mais sur une base solide et factuelle. Et vous le savez bien, nous vivons une époque où cette notion de base factuelle n'est pas forcément toujours comprise et en tout cas entendue. Mais bien sûr, travaillons là-dessus et peut-être par des gens qui ont l'habitude de le faire et qui ont plus de qualité que quelqu'un comme moi pour le faire, mais vraiment œuvrons dans ce domaine-là et diffusons l'information autant qu'on peut le faire.
Éric Tistounet, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le chef de la branche du Conseil des droits de l'homme du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.